Bienvenue pour cette exploration de l'économie chinoise. C'est un système souvent vu comme plein de paradoxes, n'est-ce pas?
Absolument. Complexe, c'est le moins qu'on puisse dire.
On va s'appuyer sur une analyse assez fine, investir en Chine au-delà des paradoxes et risques. L'idée, c'est de décrypter un peu comment ça marche vraiment.
Et surtout, comment on peut éventuellement capter une partie de cette croissance, peut-être de manière un peu détournée.
Exactement. On commence avec cette notion un peu folle de capitalisme d'État décentralisé. Comment c'est possible ça? Capitalisme d'État est décentralisé.
Ben oui, c'est ça le paradoxe de départ, c'est contre-intuitif pour nous.
Alors, un chiffre qui m'a frappé dans les sources, 70% des dépenses publiques seraient gérées localement en Chine.
Oui, 70%.
C'est juste énorme. Aux États-Unis, c'est 40%. En France, à peine 20%.
Tout à fait. Ça change complètement la donne.
Et on parle de gouvernements locaux entrepreneuriaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce côté entrepreneur?
Eh bien, ça signifie qu'ils ne sont pas juste des administrateurs, quoi. Ils sont vraiment évalués sur leur performance économique.
Ah, d'accord.
Et ils ont des incitations, notamment fiscales. Ils gardent une partie des revenus qu'ils génèrent sur leur territoire.
Donc, ils ont intérêt à ce que ça marche économiquement chez eux.
Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça crée une sorte d'immense laboratoire. Ça permet d'essayer des choses, de s'adapter très vite.
Une agilité qu'on n'a pas forcément dans des systèmes plus rigides.
C'est ça. Beaucoup plus agile que des systèmes très centralisés. Pensez à Shenzhen, par exemple.
Justement, Shenzhen. L'analyse la met souvent en face de la Silicon Valley, mais souligne de grosses différences. On parle de plus de 25 nimpois high-tech. Un investissement R&D colossal, 5,8% du PIB local.
Oui, les chiffres sont impressionnants.
Mais c'est surtout la philosophie qui semble différente. Collaboration ouverte plutôt que protection intellectuelle à tout craint. Et cette vitesse, une idée au produit en 4-6 semaines.
Oui, ça c'est le point clé.
Comment c'est possible, sérieusement?
C'est l'écosystème unique de Shenzhen. L'intégration verticale est, extrême. La conception, le prototypage, la production, tout est très très proche géographiquement.
D'accord, tout est au même endroit.
Voilà. Et ça facilite ce que l'analyste appelle l'innovation incrémentale rapide. On n'est pas forcément dans la rupture disruptive à tout prix comme en Californie.
C'est plus une amélioration continue, mais très rapide.
Exactement. On s'appuie sur un réseau hyper dense de fournisseurs. On partage, on améliore vite. On le voit bien sur les véhicules électriques, par exemple.
Ah oui, sûr.
Oui, sur l'intégration de l'IA, les systèmes embarqués. Ils ont pris une certaine avance grâce à cette rapidité d'itération.
C'est assez bluffant. Mais bon. L'analyse n'élude pas les problèmes. Les risques géopolitiques, la réglementation chinoise, parfois, imprévisibles.
Bien sûr, ce sont des préoccupations très légitimes pour les investisseurs.
Et face à ça, les sources suggèrent une approche souple, l'investissement indirect. L'idée serait de capter quand même 60-70% de la croissance chinoise, mais avec moins de risques directs.
C'est ça. L'idée de base est assez simple, en fait.
Comment ça marche en pratique?
On investit dans des entreprises ou des secteurs qui profitent de la Chine sans être directement basés là-bas ou soumises aux mêmes aléas réglementaires ou politiques.
Comme Apple ou Tesla, par exemple, la Chine est un marché énorme pour eux.
Voilà, ça, ce sont les exemples proxy les plus évidents. Des multinationales pour qui la Chine est cruciale, soit comme marché, soit comme base de production. Mais l'analyse va plus loin.
D'accord.
Elle suggère de diversifier. D'abord, géographiquement, avec ce qu'on appelle le China plus 1.
C'est-à-dire ?
Des pays comme le Vietnam, le Mexique, qui bénéficient des délocalisations ou de la volonté des entreprises de ne pas tout mettre en Chine.
Diversifier les chaînes d'appro.
Exactement. Ensuite, les matières premières. La Chine consomme énormément de cuivre, de fer, donc investir dans des mineurs comme Rio Tinto, c'est une expo indirecte.
Logique.
Il y a aussi la tech régionale. Pensez à TSMC à Taïwan ou Samsung en Corée. Ce sont des géants incontournables dans l'écosystème tech asiatique et donc liés à la Chine.
Bien sûr.
Et enfin, plus largement, on peut utiliser des ETF, ces fonds indiciels qui couvrent l'Asie mais hors Chine. Le type AXJ est souvent cité.
Et l'étude chiffre les gains potentiels de cette approche indirecte?
Oui, elle parle d'une surperformance possible de 2 à 4% par rapport aux marchés mondiaux.
Pas mal.
Tout en réduisant le risque spécifique Chine de 40 à 60%. Donc, un couple rendement risque potentiellement plus intéressant.
Trouver le bon équilibre, en somme. Profiter du moteur sans être totalement exposé à ses ratés.
C'est tout à fait l'idée.
Si on se projette un peu vers 2025-2026, quels sont les secteurs porteurs identifiés en Chine même? On voit les classiques, véhicules électriques, IA, renouvelables.
Oui, cela reste centraux. BYD, par exemple, croissance de plus 30% prévue sur les VE. L'IA aussi, même avec les restrictions américaines.
Mais il y a aussi des termes un peu plus nouveaux. L'économie de basse altitude, ville résiliente.
Oui, alors, l'économie de basse altitude, c'est tout ce qui vole près du sol.
Des drones.
Voilà, drones de livraison, logistique aérienne en ville, peut-être demain des taxis volants. C'est vu comme un vrai nouveau relais de croissance.
D'accord. Et les villes résilientes?
Ça, c'est un concept d'urbanisme. L'idée est de construire ou adapter les villes pour qu'elles encaissent mieux les chocs. Climat, santé, économie. Ça va avec l'objectif de 70% d'urbanisation d'ici 2029, mais en y ajoutant une couche de durabilité.
Intéressant. Et là aussi, il y a des opportunités indirectes.
Tout à fait. La croissance des VE chinois, ça profite aux fournisseurs de lithium mondiaux, comme Albemarle. Le boom de l'IA, même bridée, ça tire la demande d'équipements pour faire les puces, donc ça bénéficie à des boîtes comme ASML aux Pays-Bas. Sans oublier les tendances de fond, le vieillissement de la population qui pousse le secteur de la santé, ou l'accent mis dans le plan quinquennal sur la qualité de la croissance, ça favorise les technologies propres, l'efficacité énergétique.
Ok, donc pour résumer, le modèle chinois est bien plus sophistiqué qu'on ne le pense souvent. Un mélange de vision stratégique d'en haut et d'une surprenante autonomie locale qui donne de l'agilité.
C'est une bonne synthèse, oui. Comprendre ça, c'est crucial.
Et pour les investisseurs qui sont un peu frileux, les stratégies indirectes semblent offrir une voie, disons, équilibrée.
Une manière de participer en maîtrisant mieux les risques spécifiques, oui.
Parfait.
Et d'ailleurs, ça soulève une question de fond, peut-être pour terminer.
Oui.
L'analyse souligne cette vision à très très long terme de la Chine. On parle en décennies, parfois en siècles. Ça contraste énormément avec notre horizon à nous, souvent le trimestre ou la prochaine élection.
C'est vrai.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est si cette approche chinoise du temps long s'impose, est-ce que ça ne nous oblige pas, nous, acteurs économiques internationaux, à revoir certaines de nos hypothèses de base sur la stabilité, la prévisibilité, les rapports de forces économiques mondiaux?
C'est une excellente question pour réfléchir. Ça remet pas mal de choses en perspective.